Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour l'heure du carillon, cette émission mensuelle proposée par des chrétiens du Villefranchois. Nous allons aujourd'hui parler de Pâques. En effet, à la fin du mois, nous fêterons cette fête majeure pour les chrétiens, pour tous les chrétiens, et nous sommes trois autour de la table, et chacun de nous va dire donc il est, mais vous connaissez nos voix.
C'est mon Bessouz, un habitué.
Bernard Lauriac, un autre habitué.
Et Didier, le troisième habitué, prêtre à Villeneuve. Donc voilà, Pâques, vous avez peut-être remarqué, quand vous évoquez ce mot-là, que parfois il s'écrit avec un S et parfois il s'écrit sans S. Ah, qu'en est-il ? Quand Pâques s'écrit sans S, on parle de la Pâque juive. Et quand on parle des fêtes de Pâques avec un S, on parle des Pâques chrétiennes. Et pourquoi il y a un S ? Parce que les chrétiens n'oublient pas la Pâque des Juifs. Et finalement, en célébrant cet événement, on célèbre deux choses, la Pâque des Juifs et la Pâque des chrétiens. Voilà, ça c'est la première chose, peut-être que c'est un détail, vous savez, maintenant l'orthographe change, on comptera pas une faute, mais en fait
non,
c'est
mais
pas
la seule importance, il est intéressant de savoir justement qu'est-ce qui différencie l'un et l'autre.
Alors on va en parler, et alors la première question que je me suis posée, que je vous pose, et qu'on s'est posée en préparant cette émission, c'était de savoir, est-ce que cette fête de Pâques, ces fêtes de Pâques, les deux, appartiennent-elles à l'histoire ? Ça c'est une vraie question. Et donc, on va essayer d'en parler et de voir d'abord comment nous, les chrétiens, on veut s'enraciner dans l'histoire d'un peuple qui est le peuple hébreu, le peuple juif, qui a fêté Pâques bien avant nous. Alors, on va repartir de cela, si vous voulez.
De la Pâque juive, absolument. Oui, d'abord, c'était une fête nomade du printemps. On offrait les prémices du troupeau. Mais quand on parle de la Pâque juive, c'est surtout le Pâque veut dire passage, c'est-à-dire le passage de la mer Rouge, c'est-à-dire la libération de l'esclavage vers la liberté, vers la terre promise, vers le pays de Canaan, guidé par Moïse, c'est ça. Et donc le jour de la libération, c'est lorsque les Juifs sacrifiaient un agneau, badigeonnaient le linteau de la porte avec du sang, pour que la vengeance, puisque je crois, rappelle-moi ça, je crois que le pharaon devait tuer tous les enfants.
Non.
Alors explique-moi.
Voilà, comme le pharaon ne voulait pas laisser partir ce peuple et que Moïse intercédait auprès de pharaon pour que ce peuple parte, il y a eu ce qu'on appelle les plaies d'Égypte où petit à petit des misères sont tombées sur ce peuple, mais le pharaon à chaque fois endurcissait son cœur et refusait qu'il parte jusqu'au jour où le Seigneur a dit, eh bien, tous les premiers-nés de l'homme et du bétail vont mourir, sauf ceux qui seront protégés par le sang de l'agneau. Voilà, donc c'était l'ange exterminateur, mais il faut lire ce récit comme un récit symbolique. Si vous voulez, c'est que ces événements de Pâques, plus qu'à l'histoire, appartiennent à l'expérience d'un peuple, à la foi d'un peuple. Et ça, c'est très important de dire. Mais ce peuple a voulu traduire cette expérience et cette foi à travers une histoire concrète et des événements qui ont des bribes historiques. Mais c'est pas l'histoire telle qu'on pourrait la faire aujourd'hui. Il y a des relents historiques et le peuple, parce que le peuple a écrit cela, mais ça a été écrit, cette histoire, mis par écrit telle qu'on l'a aujourd'hui dans la Bible. Ça a été écrit 600 ans
après.
600 ans après les événements. Oui, alors vous rendez compte.
Les transmissions se faisaient plutôt de voie orale. Ils n'attachaient pas autant d'importance à l'histoire qu'on y en attache actuellement. Ce qui était important pour eux, c'était de faire passer un message.
C'est faire passer un message et dire leur expérience. Un petit mot encore, si vous voulez, sur la date de Pâques. Je vous disais en commençant qu'elle était fêtée cette année, donc le dimanche 27 mars. Pourquoi ? Alors, je vous dis simplement ce qu'il en est. Pour les Juifs, la Pâque se célèbre le 14 Nisan. 14 Nisan, c'est le nom d'un mois, un mois de printemps, date de la fête de Pécha. En hébreu, Pâques, ça se dit Pécha, passage. Et ce 14 Nisan correspond à la pleine lune de printemps. Donc vous comprenez bien que comme c'est la pleine lune de printemps, c'est essentiellement variable d'une année sur l'autre. Et pour les chrétiens, la fête se célèbre juste le dimanche qui suit cette première pleine lune de printemps, d'où cette date variable. Un des drames des chrétiens, c'est que les orthodoxes et nous n'avons pas le même calendrier.
Pourquoi ?
Nous avons le calendrier grégorien, et les orthodoxes ont encore le calendrier julien. Alors, calendrier julien, celui de Jules César, qui a été modifié en 1582 par le pape Grégoire, je ne sais plus le numéro, mais peu importe, un Grégoire qui a fait, toi tu le sais peut-être, tu es historien, moi je ne me souviens plus, non je ne sais plus, un Grégoire en 1582 qui a modifié le calendrier pour faire le calendrier grégorien. C'est là qu'on a rajouté l'année bissextile, c'est là que, voilà, il y a eu des choses comme ça qui ont été faites et qu'on a rattrapé des jours qui nous manquaient. Donc on n'a pas la même date. Un des souhaits aujourd'hui de tous les chrétiens, c'est de fêter Pâques en même temps. Et donc, il y a des colloques qui se font et des réflexions pour qu'on puisse fêter Pâques. Parce que ça serait un sacré signe qu'on fête la résurrection du Christ. Parce qu'on dit toujours entre chrétiens, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. Donc voilà. On fête Pâques et le Christ, mais on y reviendra tout à l'heure, a voulu refaire les événements, faire le mémorial, alors on va parler du mémorial, vivre le mémorial de la Pâque juive, en lui donnant un sens nouveau que nous fêtons, que nous célébrons aujourd'hui, d'où cette est sa Pâque.
D'accord. Bon, alors, on parlait aussi de Pâques dans l'histoire. On peut se souvenir aussi de Pâques au Moyen-Âge, où il y avait des représentations théâtrales, qu'on appelait les mystères, où on reprenait surtout la montée vers le calvaire, les 15 stations, Jésus tombe, Jésus, Joseph d'Arimathie,
celui-là qui porte la croix.
Non, c'est Simon de Cyrène.
Joseph d'Arimathie, c'est lui qui donne son tombeau.
Voilà. Alors, Simon de Cyrène qui porte la croix, etc. Donc, c'était des tableaux qui étaient représentés dans l'église où on célébrait Pâques par le théâtre. Alors, ça a été important.
Il y a une raison à ça. Il y avait les croisades. Donc, le début du Moyen-Âge, enfin, un peu après, dans le Moyen-Âge, plutôt, il y a eu les croisades. Et donc, les gens allaient vivre en Terre Sainte ce que le Christ avait vécu. Et pour ceux qui n'avaient pas pu le vivre, on a commencé à faire des chemins de croix pour se rappeler ce chemin du Christ vers la croix, d'où les mystères que l'on célébrait sur les parvis des cathédrales.
Ah, c'est intéressant.
Voilà. Donc, ça vient de là. Mais n'oublions pas que d'abord, Pâques, alors c'est ce que disait Bernard au début, Pâques, c'est la Pâque juive, c'est un peuple qui sort de l'esclavage pour aller à la liberté et qui traverse la mer Rouge, qui traverse les eaux. Et le Christ dira finalement, le baptême, c'est un nouvel exode, une nouvelle libération. Mais enfin, on en reviendra à en parler tout à l'heure. Mais Pâques, c'est d'abord le souvenir de l'exode. Exode, qui veut dire exit en anglais, qui veut dire départ, sortie, ce que vous voulez. Donc, ils sortent d'Égypte et ils vont vers la terre promise. Alors, si vous voulez, pour dire que ça a marqué toute l'histoire chrétienne, on va écouter un chant qui va vous rappeler des affaires.
Go down,
Moses,
way my people go.
Let my people go.
So Moses went to Egypt land.
Let my people go.
He made old Pharaoh understand.
Let my people go.
Yes, the Lord said, go down.
Go down.
Moses.
Moses.
Way down in Egypt land. Tell all the Pharaohs to let my people go.
Let my people go.
Firstborn dead.
Let my people go.
'Cause the Lord said, go down.
Go down.
Moses.
Moses.
Way down,
down
in Egypt land. Tell old Pharaoh
to let my people go.
Vous êtes bien sur CFM Radio, à Villefranche 90.2, et nous savons maintenant que notre émission est donnée aussi et diffusée sur Présence Figeac et sur CFM Rodez en 107.9. Voilà, donc nous écoutons l'heure du carillon. Nous sommes donc en train de parler de l'Exode, de cette Pâque, de ce souvenir des Juifs. Il faut vous dire que ce que nous on appelle l'Ancien Testament ou la Première Alliance, le Premier Testament, est marqué par cet événement majeur, qui est finalement l'événement constitutif d'un peuple qui est passé de l'esclavage à la liberté, et c'est ça qui a vraiment fondé le peuple hébreu. Voilà, le Dieu de Moïse, le peuple hébreu, le Dieu révélé par Moïse. Et tout l'Ancien Testament est marqué par cet événement. D'ailleurs, les prophètes vont lire l'exil, vous savez, quand les Hébreux ont été amenés à Babylone et puis qu'ils sont revenus, vont le lire comme un nouvel exode, une nouvelle libération. Mais déjà, dans le livre de Josué, on fait écho à cet événement pour vous dire combien il marque tout l'Ancien Testament, et Michel va nous lire ce petit texte.
Alors c'est au chapitre 5 que vous le trouverez, verset 10-12. « En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. Les fils d'Israël campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient des produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. »
Voilà, ce texte est très beau parce que d'abord, il nous dit historiquement, il nous rappelle le moment de la Pâque, le soir, cette célébration, et le repas des pains sans levain. Au début du printemps, il n'y avait que du vieux levain qui avait perdu son énergie pour faire lever la pâte. Et finalement, manger le pain sans levain, c'était un signe d'humilité. C'était un signe que Dieu donne tout. Comme il avait donné la manne, ce repas qu'ils avaient dans le désert alors qu'ils n'avaient rien à manger, voilà que Dieu leur donne une terre qui est capable de les nourrir. Et nous, nous allons recevoir le corps du Christ qui est notre nourriture pour continuer la route. Voilà.
Moi, j'ai une petite question quand même. La manne, que faut-il dire de la manne ? Toi, Père Daniel, tu es
non,
bien placé.
Non, Didier, moi.
Mais Didier, pardon, excuse-moi. Comme faut-il voir. Je t'écoute là. Parle-nous de la manne.
La manne, c'est un signe, voilà. Les Hébreux récriminaient contre Dieu dans le désert. Pourquoi tu nous as fait sortir? Si c'est pour que nous mourions de faim, si c'est pour qu'on ait soif, si c'est pour que ça aille pas du tout. Finalement, on n'était pas si mal en Égypte. Pourquoi tu nous as fait sortir et tout? Et donc, Moïse, on parle souvent de relations anthropomorphique, c'est-à-dire que la relation entre Dieu et Moïse est une relation presque d'homme à homme. Et il y a des moments où on a l'impression que Moïse fait fléchir Dieu. Et il va le trouver en lui disant, t'as vu ton peuple, hein, ils t'en veulent, tu ne comprends pas, ils meurent de faim. Et Dieu dit, t'as raison Moïse, t'as raison, hein, je vais leur donner à manger, tu vois, je vais leur donner à manger. Et donc, les Hébreux ont reçu cette nourriture comme un signe de Dieu qui leur donnait la nourriture. Alors, ce qui veut dire aujourd'hui pour nous que la nourriture qu'ils avaient dans le désert, parce qu'ils ne sont pas tous morts de faim, autrement ils ne seraient jamais arrivés de l'autre côté, eh bien cette nourriture, ils la recevaient comme un don de Dieu. Mais... Et d'ailleurs, le mot manne, ça veut dire qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est, tu vois ? C'est un mystère, voilà. Donc,
alors, on parle d'oiseaux qui étaient en migration et qui tombaient parce qu'ils étaient fatigués. Alors est-ce qu'on peut dire que c'est le coup du hasard ou c'est Dieu qui se sert, lui le créateur, de sa création pour venir en aide ?
Tu vois, je crois que nous, dans nos pays, on ne doit pas dire merci à Descartes. La rationalité ou le rationalisme nous bouffe. On ne peut pas accueillir quelque chose comme ça nous dépasse. Notre intelligence ne peut pas recevoir ça. On ne peut pas avoir des signes historiques, des signes archéologiques de cette histoire. On sait que l'expérience d'un peuple dit, eh bien, dans le désert, Dieu nous a nourris pour pas qu'on meure de faim. Le reste, tu vois, nous, on voudrait toujours avoir des preuves, des machins, te toucher et tout. Mais non, ce peuple nous dit ça. On était dans le désert et Dieu nous a nourris pour pas qu'on meure de faim. Il suffit de le garder comme ça.
Moi, je voudrais revenir sur le mot Pâques égale passage. Tu te rappelles, quand on avait préparé, tu avais dit, parce que tu as le sens de l'humour, passage, on peut aussi le découper en deux, passage. Ça m'a fait rêver, et donc je me suis dit, qu'est-ce que passage, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, j'ai pensé d'abord au mercredi des cendres, où... On dit l'homme n'est que poussière, et ça me fait penser toujours à Alexandre Vialat qui disait l'homme n'est que poussière, d'où l'importance du plumeau. Bon, c'est pas très sage. Mais je pensais aussi, parce que je m'occupais de l'aumônerie et les lycéens préparaient la veillée de Pâques et ils le faisaient souvent avec pas mal d'humour. Alors je me suis dit, si aujourd'hui j'avais encore des lycéens, comment ils prépareraient la veillée de Pâques? Et j'ai pensé à ça, parce qu'ils avaient beaucoup d'imagination. Je les vois très bien en train de construire un mur de barbelés, en y mettant derrière des ouvriers polonais qui disaient « On a subi le nazisme, on a subi le communisme, alors maintenant on serait envahi par des musulmans, nous on refuse. » Et par contre, il y aurait... une dame qui serait la présidente actuelle des Allemands, avec un monsieur qui serait le pape et qui, eux, construirait un pont pour passer derrière les barbelés en disant « Mais enfin, on est 500 millions d'Européens, quand des gens souffrent de la guerre, de la misère et qui sont obligés de partir, les 500 millions d'Européens, on peut accueillir 1 million ou 2 millions parce qu'on est des pays riches, ce serait tout à fait possible. » Donc Angela Merkel et le pape François se donnaient la main, comme autrefois Mitterrand et Kohl se donnaient la main devant Verdun. Bon, voilà à quoi ça m'a fait penser.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le pape François Hollande-François et Angela Merkel, aujourd'hui, peuvent passer pour des gens pas sages. Pas sages au sens étymologique, parce que c'est pas raisonnable ce qu'ils proposent. Et pourtant, c'est la seule solution qu'il peut y avoir à ces problèmes-là. C'est une des solutions qu'il peut y avoir à ces problèmes-là.
Voilà, parce que Pâques, c'est quand même le renouvellement. Et alors, ça m'a fait penser à autre chose. Ça m'a fait penser à ma petite fille. Je lui ai expliqué que moi, j'avais vécu dans mon adolescence le Concile Vatican II comme un renouvellement majeur du christianisme. Maintenant, à 73 ans, je me dis que j'ai la chance de connaître un pape qui bouscule pas mal les choses, et c'est un autre renouvellement. Et j'aurais dit à ma petite fille, tu vois, moi je suis sûr que, moi je le verrai pas, mais tu auras sûrement un pape qui acceptera des femmes prêtres. Bon, alors ça serait un autre renouvellement, mais pourquoi pas. Bon, alors, bon, là, je fantasme, mais passage, bon,
alors, voilà. Vous voyez, dans l'Exode aussi, et dans le texte que tu as lu, le fait de manger des fruits de les fruits de la terre et de pas être toujours en errance, en itinérance et en errance, alors qu'on n'est que des pèlerins sur cette terre, c'est aussi le passage pour ce peuple, le passage d'une vie nomade à une vie sédentaire. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et Dieu leur donne de s'établir pour rayonner. Pour rayonner. Voilà. Donc, l'Exode, c'est tout cela.
Oui, mais ne vont-ils pas dans un endroit où il y avait déjà du monde?
Oui, mais alors, c'est vrai que... C'est vrai. Mais ça, c'est le problème de toutes les migrations. Tu sais, si tu regardes notre pays de France, et dans les, juste après les conquêtes romaines, elle a été faite par les invasions des barbares, qu'on appelait à l'époque. Et je veux dire, ça, c'est le fait de tous les peuples, de tous les pays du monde. Il y a toujours des lieux qui attirent davantage et des lieux qui rejettent davantage. Et ça, on l'a vu et on le verra encore jusqu'à la fin des siècles, je pense. Et voilà. Donc, ce peuple devient sédentaire, établit des sanctuaires pour Dieu, alors que dans le désert, il n'en avait pas. Il établit des sanctuaires pour Dieu. Et dans ces sanctuaires, il va renouveler le sacrifice de l'agneau, le sacrifice des victimes animales, qu'il va renouveler. Et nous, les chrétiens, on donnera un autre sens. Alors, si vous voulez, pour l'instant, on va écouter un chant hébreu. Un chant hébreu, voilà, l'histoire d'être en communion aussi avec les Juifs qui fêtent cette Pâque.
Betuv Yerushalayim Yevarechecha Hashem Tzion Kol yemei yemei chayecha Yevarechecha
Bye.
Voilà, donc si vous voulez, on vient d'écouter ce chant, je ne connais pas l'hébreu, mais on entend Shalom Israël, ça veut dire la paix en Israël, et nous savons tous qu'il y en a besoin. Et finalement, le sens profond de la Pâque, c'est que cette libération est une œuvre de paix et de réconciliation voulue par le Seigneur. Alors, c'est donc au cœur de l'expérience religieuse du peuple d'Israël célébrant la Pâque juive que Jésus a déposé les gestes et les paroles de la Pâque nouvelle de l'Alliance qu'il voulait établir. Le sang de l'agneau qui distingue et sépare Israël de l'Égypte, ce sang deviendra celui du Christ lui-même venu racheter tous les hommes. Le sang de l'agneau immolé une fois pour toutes, ne sera-t-il pas aussi celui de la paix et de la réconciliation? Au cœur de notre fête de Pâques, nous commençons par, après le temps du carême, ce temps de préparation qui n'est pas triste, mais qui est un temps, un peu une attente vive, là, où on se rappelle cette histoire du peuple cherchant la liberté, voulant cheminer vers cette liberté. Nous commençons par le dimanche des rameaux et de la passion. Alors, si vous voulez, c'est un portail d'entrée, parce que, en rentrant à Jérusalem avec l'acclamation des rameaux et de la foule, nous sommes dans la gloire. Et puis, à la fin de la célébration, nous avons reçu le Christ ressuscité sous la forme de l'Eucharistie. Nous sommes encore dans la gloire. Puis entre les deux, il y a la passion. Donc on va de la gloire à la gloire en passant par l'anéantissement de Jésus. Voilà, ça c'est la fête de rameaux. Et puis commence la semaine sainte avec ces points d'orgue qu'on appelle le Triduum Pascal, les trois jours qui préparent à Pâques, le jeudi saint, le vendredi saint, la veillée pascale, et puis bien sûr le dimanche de Pâques, mais les trois jours de Pâques, vendredi, et puis Pâques.
Oui, alors j'aurais commencé par le jeudi saint. La question que l'homme, disons, un peu indifférent à la religion chrétienne peut se poser, comment cet homme peut-il nous donner son corps à manger et son sang à boire? Donc c'est le mystère de l'Eucharistie, qui entraîne toute une symbolique. Moi j'en ai vu 4 ou 5 dans l'Eucharistie. Il y a d'abord le repas partagé. Hein, c'est un repas d'adieu, parce que le Christ sait qu'il va mourir, et donc le repas partagé, c'est toujours une source de plaisir et d'échange. Mais il y a le rapport à la nourriture, besoin vital. On parlait tout à l'heure de la manne dans le désert, hein, quand les Hébreux crevaient de faim. Le Christ, c'est le pain de vie. Le pain de vie, quand il dit le pain, c'est le corps, c'est mon corps, c'est-à-dire c'est l'être de Jésus dans toute son épaisseur et dans toute son histoire qu'on reçoit dans la communion. Donc, il y a le pain et puis il y a le sang, le sang qui évoque le sacrifice. Hein. Donc, ingérer l'hostie, c'est se nourrir de sa parole et de son action, et c'est transformer notre corps pour que Jésus habite le chaos de nos pulsions et de nos passions. Enfin, je l'interprète comme ça, je sais pas si... Et puis, il y a le pain rompu, qui évoque le partage. Les chrétiens sont des partageux. Ils doivent effectivement aider ceux qui sont dans le besoin. C'est la logique du don. Il y a aussi le passage de l'inerte à la vie. Jésus sait très bien qu'il est à la veille de sa mort, qu'on va le réduire à un cadavre humilié par la flagellation, le supplice de la croix, et finalement pour le retrancher de l'histoire. Le Messie, dans cette lointaine Palestine, c'est un condamné comme un autre. Mais il y a eu la résurrection qui va faire de lui le vivant et non plus le cadavre. Donc ça, je crois que c'est quand même important. Et puis il dit le pain c'est mon corps, le vin c'est mon sang, cette parole de Jésus change nos cadres de référence. Donc, et cette parole de Jésus, pendant longtemps, l'Église l'a tenue un peu sous le boisseau. Hein, on interdisait pratiquement aux chrétiens de lire la Bible tout seul. On voulait que ce soit le clergé qui, le dimanche, l'explique. On avait peur qu'on fasse des contresens. Aujourd'hui, au contraire, on se réunit pour lire la Bible et pour partager ce que les textes sacrés nous disent. Donc ça me paraît très très important, cette mémoire de l'Eucharistie, c'est pour changer notre vie, c'est la fécondité de la parole. Voilà ce que je vois un peu dans le mystère de l'Eucharistie. Est-ce que je suis dans la bonne voie, Didier ?
T'es dans ta voie, c'est pas mal, hein ?
C'est des
choses aussi qui nous touchent tellement au plus profond de notre foi personnelle. Alors n'oublions jamais que la foi, elle a une dimension personnelle, elle a une dimension collective, et que la foi s'exprime à travers des rites religieux. Hein, et que tout ça se mélange, et chacun avec sa sensibilité est plus proche d'un côté ou de l'autre. Mais je vais revenir, le dire, ce que tu as dit peut-être différemment. Moi, quand je veux parler du Gide du Saint, je dis il y a trois mots importants. Et tu vas voir que tu vas te retrouver. Amour, communion, service.
Oui.
Voilà. Amour, eh bien voilà. C'est le don du plus grand amour que nous fait Dieu. Il nous donne sa vie pour que nous en vivions. Voilà. Communion, mais il nous le donne individuellement, mais il nous le donne aussi pour un peuple qui doit partager. Un peuple fraternel. Et là, nous avons du chemin à faire. Un peuple fraternel. Et service, il le donne pour que, comme lui, nous nous mettions au service du plus grand amour, de la plus grande libération de tous les hommes dans tous les domaines. Amour, communion, service. Et puis, il y a ce que tu dis, le mémorial. On le dit aussi à chaque Eucharistie, et particulièrement le soir du Jeudi Saint, où on rappelle le repas du Seigneur, où il a vécu ce geste pour la première fois. Faites ceci en mémoire de moi. Il y a dans cet ordre un écho très fort du mémorial que Dieu demande à son peuple lors de la Pâque. Mémoire du grand événement libérateur de l'Exode. Ce soir-là, vous ferez mémoire et vous le fêterez comme une fête pour le Seigneur dans vos générations. C'est un décret perpétuel. Jésus, comme le Dieu d'Israël, demande de faire mémoire. Faites ceci en mémoire de moi. Le geste du Christ s'inscrit de sa propre autorité dans la mémoire d'Israël. Il ne supprime pas cette mémoire. Il la rend plus présente encore. Dieu libère réellement son peuple. Il le libère de l'esclavage, de la mort. Faites ceci, faire mémoire dans la Bible et dans l'Eucharistie aujourd'hui, ce n'est pas se souvenir. C'est plutôt se rendre présent à ce qui est toujours actuel et qui est manifeste dans le passé. Dieu libère son peuple aujourd'hui, comme hier. Voilà, ça c'est le sens du Jeudi Saint. Dieu libère et on fait mémoire de cette libération et nous nous engageons au nom de l'amour de Dieu pour nous et pour tous à être les serviteurs de cette libération.
On l'a fait quand même depuis 20 siècles. Les chrétiens se rassemblent autour de l'Eucharistie tous les dimanches. C'est quand même fou qu'on ait tenu bon depuis 20 siècles.
Oui. Bon, enfin, pour revenir à ta question, Bernard Lauriac, on peut comprendre celui qui n'est pas croyant, qui lit buvez mon sang, mangez mon corps. C'est quelque chose qui paraît complètement aberrant. On referme de suite la Bible. Alors, les explications que tu viens de donner, Didier, sont absolument indispensables et elles sont très porteuses d'espérance. Maintenant, je voudrais que tu me dises, c'est peut-être pas prévu dans votre programme, quelle est la différence pour ce qui est, c'est une différence importante pour ce qui est de la célébration de l'Eucharistie, enfin c'est peut-être pas comme ça qu'ils disent, entre nous catholiques et les protestants.
Alors si tu veux, le problème est moins celui de l'Eucharistie que celui du ministre de l'Eucharistie. parce que chez les protestants, il n'y a pas de ministre ordonné comme chez nous. Et c'est vrai que, si moi j'ai vécu des expériences comme ça, et c'est pour ça que l'intercommunion est difficile, les protestants n'ont pas l'adoration du Saint-Sacrement comme présence réelle, tu vois, voilà. Alors que nous l'avons. Voilà.
Donc, c'est si surtout tu veux, ça, j'ai l'impression, la
si
différence.
Tu veux, voilà, la différence.
La présence
et c'est réelle. Et c'est lié au ministère de celui qui préside l'Eucharistie aussi, parce que chez les protestants, enfin, chez la plupart des protestants, c'est pas vrai chez les luthériens, mais enfin, c'est très compliqué, tout ça. C'est pas un ministre ordonné, tu vois, voilà. C'est un serviteur de la communauté, et ils vivent ce geste comme le mémorial de ce qu'a vécu le Christ, comme le mémorial de ce qu'a vécu le Christ, présent réellement dans la communauté plus que dans les espèces. Du pain et du vin. Okay. Voilà. C'est un peu une différence, mais ça va peut-être amener nos auditeurs trop loin.
Après le jeudi saint, il y a le vendredi saint. Le vendredi saint, c'est l'agonie du Christ au mont des Oliviers, où il angoisse parce qu'il voit venir sa mort, et il se sent abandonné de tous, puisque c'est Judas qui le trahit, et c'est un des 12 par le baiser, puis il y aura Pierre qui va le renier, il le lui avait annoncé. Donc il se retrouve tout seul, les apôtres dorment, et finalement il va être arrêté, présenté d'abord devant le Sanhédrin. Alors pourquoi les Juifs d'abord veulent sa mort? Est-ce que on peut répondre à cette question? Qu'est-ce qui explique qu'on l'ait condamné à mort, d'abord les Juifs et puis les Romains?
Parce que si tu veux, mais c'est toujours pareil. Mais oui, enfin,
c'est un peu perturbateur.
Il dérange. Il dérange l'autorité et l'autorité religieuse, tu vois. Il veut que l'amour dépasse la loi. Et pour ça, pour les Juifs, c'est un peu incompréhensible. C'est un peu inadmissible. Et si, pour lui, il est capable de dépasser la loi par l'amour, eh bien, c'est un blasphémateur parce qu'il se prend pour Dieu. Voilà. Mmh. Et ça, c'est ce que reçoivent pas les Juifs. Donc, ils veulent sa peau. Ils veulent sa peau. Et comme ils ne peuvent pas l'avoir, ils font appel aux Romains. Voilà. Et c'est pourquoi
Mais qu'est-ce qui a poussé le plus? Est-ce que c'est quand, dans le temple, il a chassé les bêtes et les vendeurs du temple en disant « La maison de Dieu, vous en avez fait un repère de voleurs » Ou est-ce que c'est parce que au Rameau, c'est une arrivée messianique, donc ils ont refusé qu'il soit le Messie.
C'est tout à la fois.
C'est-à-dire que si vous regardez, donc parce que ce que tu dis là, tu vois, des épisodes sont tirés des évangiles différents.
Oui.
Alors le problème, c'est qu'il y a quatre évangélistes, c'est-à-dire quatre perceptions, quatre catéchèses différentes. Pour les à côté, parce que l'essentiel s'y retrouve.
Dans la manière de présenter, c'est pour ça qu'elles ont été retenues.
Donc, les évangélistes ont été ont été écrits pour des communautés chrétiennes situées différemment, qui n'avaient pas le même passé religieux et tout. Donc, c'est pour ça que toutes ces choses se mélangent, et quand tu lis les accentuations d'un côté ou de l'autre, eh bien, c'est pas tout à fait la même chose, suivant que tu lises, Matthieu, Marc, Luc ou Jean, tu vois, voilà. Donc, mais c'est vrai qu'il y a eu une coalition de tous les pouvoirs contre Jésus, parce qu'il contestait tous les pouvoirs. Et il voulait les contester de manière non violente. Alors évidemment, on pourrait parler de l'épisode du temple, mais je veux dire... Mais il voulait les contester plutôt dans le fond. Et là, il n'est pas reçu. Et là, on va le rabrouer. Et là, on va vouloir le mettre à mort. Et là, on va dire, il faut qu'on l'arrête de parler, celui-là. Regarde un peu ses diatribes contre les pharisiens, contre les scribes et tout ça. Il est toujours en but là-dedans. Eh bien, un jour ou l'autre, eh bien, on lui renvoie
Mais s'il est venu, c'est parce qu'il y avait des choses à transformer.
Mais bien sûr.
Mais Pilate, lui... on parle de la lâcheté de Pilate. Parce que finalement, il a compris... que c'était pas un révolutionnaire.
Oui.
Il l'a compris, ça.
Bien sûr.
Et pourtant, il va le faire flageller, les soldats vont lui mettre la couronne d'épines, etc. Et donc, cette lâcheté de Pilate, il a cru que il allait vraiment entraîner des désordres, il a... comment
c'était sur ton poltron quand même.
Hier comme aujourd'hui, il y a des opportunités politiques, tu vois, voilà. Alors Pilate d'un autre côté était un homme assez sanguinaire par rapport aux gens, hein, toi.
Il faut pas l'oublier. La violence de Pilate.
La violence.
Il avait déjà crucifié.
Oui, c'est ça. Voilà. Donc il était assez sanguinaire.
Il était martyrisant. C'est quelqu'un qui aimait faire souffrir.
Mais revenons plutôt que. Voyez là encore, on est en train de vouloir. Revenons un peu au sens des choses, à l'idéal. Quand on fait cette célébration de l'office de la Passion du Vendredi Saint, qu'est-ce qu'on fait? On commence à lire le très beau texte d'Isaïe, le serviteur souffrant. C'est-à-dire, si vous voulez, le serviteur souffrant, voilà, mon serviteur a donné sa vie. Il ne proférait pas d'insultes. On lui a arraché la barbe. On lui a tapé dessus. On l'a mis à mort, tu vois, le serviteur souffrant dit ça. Mmh. Et Jésus, c'est vraiment ce serviteur souffrant, il est au service de l'amour. Mais est-ce que vous connaissez, à quelque niveau que ce soit un père de famille, que ce soit quelqu'un qui est dévoué dans ce qu'il fait, est-ce que vous ne croyez pas que quand on est au service de l'amour, même s'il y a une grande joie, un grand épanouissement, il y a toujours une part de souffrance? Voilà. Parce que je dis, plus l'amour est fort, plus il est vulnérable. Et on le voit avec des parents. Les parents, ils souffrent pour leur enfant parce que c'est le plus grand amour. Eh bien, le Christ va jusqu'à cette folie de l'amour, jusqu'au bout, pour montrer le chemin. Pour montrer le chemin. Et le Vendredi Saint, c'est ça que nous célébrons, mais avec en filigrane toujours la lueur de la résurrection qui se pointe, la lueur de la résurrection qui arrive. Et donc, on va parler maintenant, dans un dernier moment, on va parler de la veillée pascale, mais écoutons une musique avant.
Christ resuscité des morts, par sa mort et la vie.
Voilà, nous sommes sur CFM Radio 90.2 et nous écoutons, nous vivons l'heure du carillon qui est rediffusée sur Présence Figeac et sur CFM Rodez 107.9. Voilà, après avoir parlé, mais peut-être trop rapidement, et pardonnez-nous si parfois c'est pas trop clair ou c'est un peu compliqué, il y aurait tant de choses à dire, mais enfin on fait ce qu'on peut. On va parler maintenant de, eh bien, du point culminant de la fête de toutes les fêtes, c'est-à-dire Pâques, en commençant par la veillée pascale. Alors, la veillée pascale, écrivait saint Augustin, c'est la mère de toutes les veillées. À l'origine, c'était une nuit consacrée à relire dans l'Écriture les grandes étapes du peuple de Dieu à travers son histoire. Le projet d'un Dieu qui libère, qui veut faire alliance et renouvelle cette alliance tout le temps malgré les infidélités et les ruptures du peuple et qu'il la renouvelle de façon définitive en Christ. Mais entre nous, cette histoire n'est-elle pas un peu la nôtre ? Au bout de la nuit, au petit matin, c'était la célébration de la résurrection bienheureuse, le feu dissipant les ténèbres, réchauffant et purifiant les cœurs, le récit de la résurrection, les baptêmes des catéchumènes, de ceux qui se préparaient, puis l'Eucharistie. Cette veillée pascale, elle a été sous les tiennouillards, malgré le feu, pendant bien des années. Et c'est en 1951, Pie XII qui en a restauré l'usage. Avant, on ne vivait pas la veillée pascale. Et puis, le Concile Vatican II en a fixé la trame actuelle. C'est vrai qu'il y a eu 12 lectures. Aujourd'hui, il y en a 7, dont 3 obligatoires qui rappellent ces grandes étapes du peuple de Dieu. Mais, donc, si vous voulez, on va parler de cette veillée pascale. Le Christ est ressuscité d'entre les morts, comme nous venons de l'entendre. Qu'est-ce que cela amène dans notre vie ? Qu'est-ce qu'on peut dire de cette fête de Pâques ? Alors bien sûr, c'est la fête chrétienne la plus importante. Même si elle est moins sensible que Noël, c'est la plus importante parce qu'elle est au cœur de notre foi. C'est « si vous ne croyez pas en Jésus ressuscité, votre foi est vaine », dit saint Paul. C'est le cœur de notre foi. Alors bien sûr, il n'y aurait pas Pâques sans Noël, mais paradoxalement, il n'y aurait pas Noël sans Pâques.
Alors moi, ce qui me frappe là dans cette résurrection, d'abord, c'est que les apôtres sont en fuite, ils ont peur, et ce sont les femmes qui sont là. Elles sont là auprès de la croix, et c'est elles qui apportent des aromates après le sabbat, et qui découvrent le tombeau vide. Donc, j'ai dit que je serais pas sage, ça me fait penser, donc les femmes sont là, le jour de la résurrection, les hommes sont en fuite, et je me souviens d'un dessin de Cabu, pour le Concile Vatican II, où il y avait l'Assemblée de Saint-Pierre, où il y avait tous les évêques, et il disait « ça manque de femmes ». Donc, c'est le problème du rôle des femmes dans l'Église, qui sont catéchistes, qui font beaucoup de choses, mais qui sont pas aux places d'autorité. Donc, il y a les femmes. Mais il y a aussi, ce qui me frappe également, c'est que quand le Christ expire, d'abord, il a ce moment d'angoisse puisqu'il dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Bon, donc ça prouve que nous aussi, on a le droit de temps en temps au doute, à l'absence, comme le Christ l'a eu. Mais c'est le centurion, un païen, qui dit « Cet homme était vraiment Dieu ». Alors, donc l'Église des païens commence là, il me semble.
Alors tu as raison, mais on oublie souvent une parole. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le psaume 21, tout le monde le cite, sans oubliant d'aller jusqu'à la fin, parce que la fin du psaume dit autre chose. Mais il y a une deuxième parole du Christ en croix rapportée par les évangiles. Oui. « Et Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Oui. » Oui. Donc si tu veux, l'une de ces paroles fait pendant à l'autre. Oui. Donc ça, c'est une chose. Et c'est vrai que Pâques, c'est quand même quelque chose de tout à fait... il faut faire le saut dans la foi. La mort de Jésus, tout à l'heure on en parlait, c'est un moment historique. Il y avait des témoins, Il y a des traces dans des livres qui ne sont pas chrétiens. La mort de Jésus est un moment historique. Voilà. La résurrection ne l'est pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils constatent que le tombeau est vide. C'est tout. On n'est pas là au moment où Jésus ressuscite d'entre les morts. On passe d'un tombeau fermé avec la pierre roulée à un tombeau ouvert. Un tombeau ouvert, la pierre roulée, mais dans l'autre sens. Les linges sont là, il n'y a plus le Christ. Et comme tu dis, ce sont les femmes qui vont faire attester aussitôt par les apôtres que ce tombeau est vide. Et voilà.
Et au début, les apôtres ne les crurent pas.
Ils ne les crurent pas.
Oui,
voilà.
Normal.
Voilà. Et puis il a fallu, si tu veux, la Pentecôte après la venue de l'Esprit de Jésus pour qu'ils comprennent et qu'ils rentrent dans cette démarche.
Mais il y a eu des témoignages quand même.
Oui, alors, il y a plusieurs témoignages de la résurrection. Une des premières, ça a été Marie-Madeleine qui voit deux anges et qui lui disent est ressuscité, c'est en Galilée qu'il est vivant, vous allez le retrouver en Galilée. Mais c'est aussi, alors c'est un passage de l'évangile que j'aime bien, c'est les disciples d'Emmaüs.
Voilà.
Les disciples d'Emmaüs, pourquoi? Parce qu'il y a ces trois temps. D'abord, il y a ces disciples, Emmaüs, moi j'y ai été, j'ai fait un pèlerinage en Terre Sainte, c'est à 15 kilomètres de...
À Bougoche.
À Bougoche, voilà. Les disciples, ils sont tout tristes parce que eux, ils croyaient en Jésus, en Jésus le Messie, et puis il est mort. Donc tout s'effondre. Et puis ils sont rattrapés par quelqu'un qui leur dit pourquoi vous êtes tristes. Et il dit mais tu as pas vécu les derniers événements. Et il leur dit mais si. Et il leur explique ce qui s'est passé en repartant de l'Écriture. Où on annonçait qu'il souffrirait, qu'il serait mort et qu'il ressusciterait. Donc ça, c'est intéressant parce que pendant longtemps, alors moi je crois que la résurrection actuelle, c'est les chrétiens qui se regroupent à plusieurs pour lire la Bible, alors que pendant longtemps on leur avait interdit. Donc ils lisent la Bible, ils échangent leur point de vue sur les textes sacrés, et chacun a son point de vue différent, et ça renouvelle pas mal les choses.
Mais je pense qu'il faut quand même finir d'expliquer les compagnons d'Emmaüs.
Oui, alors après, donc Jésus leur explique l'Écriture, et puis il leur dit, il fait semblant de partir. Et puis les autres lui disent, mais non, on reste avec nous, il se fait tard, on va manger ensemble. Et puis c'est à la fraction du pain qu'ils le reconnaissent. Donc,
Puis ils ont eu à eux leur cœur qui était...
Vibrant de l'amour de Dieu.
Voilà.
Et ils sont revenus...
Et ils reviennent, c'est le troisième temps, ils reviennent à Jérusalem, annoncer, il est vivant, on l'a vu
Quand tu dis, aujourd'hui, les chrétiens lisent la Bible ensemble et tout, et ça je crois que c'est une résurrection, c'est ce que tu nous dis là un peu, mais je crois que ça suffit pas. Ils lisent la Bible pour mettre la parole de Dieu en pratique, parce qu'autrement ça ne sert à rien.
Tout à fait.
Voilà. Si c'est qu'un artifice littéraire ou comme ça, c'est intéressant. Tous les récits de résurrection, et si vous voulez, on va bientôt en terminer là, tous les récits de résurrection ont ces trois étapes dont tu parles. Une question. Jésus qui se donne à reconnaître, c'est Jésus qui se fait reconnaître lui-même, et il donne une mission. Tout le temps. Tous les récits de résurrection. On part d'une question, on s'interroge. Hein. Jésus se fait reconnaître d'une manière ou d'une autre, et il donne une mission.
Donc tu parles de mission, Didier, et je pense que c'est important. Autrement dit, ça veut dire que chaque être humain n'est pas là par hasard et qu'il a une mission.
Mais tous en a une mission.
Oui, absolument.
C'est ce qu'on appelle vocation. Alors, que l'on soit croyant ou pas, on est sur cette terre pour faire quelque chose et contribuer à la vie de cette terre. Alors, sous le regard de Dieu, on peut le vivre différemment. Faire Pâques, c'est finalement vivre le grand événement de la résurrection. Faire Pâques, c'est renouveler sa foi baptismale. Quelle est ma vocation pour ce monde-ci, au nom de Dieu, tu vois? Faire Pâques en menant une vie nouvelle dans le Christ. Faire Pâques en communiant les uns aux autres. Alors, puisque nous allons fêter cela en fin de mois, joyeuse Pâques, à vous qui faites une large place à la contemplation du mystère. Parce que ça reste un mystère. Joyeuse Pâques, à vous qui faites entendre le témoignage de votre foi. Joyeuse Pâques à vous qui, malgré toutes les difficultés de l'existence, faites croître les fleurs de la création nouvelle. Joyeuse Pâques à vous qui êtes le rassemblement des frères dans l'amour. À bientôt. Tu veux dire quelque chose, Michel ?
Oui, je voudrais dire que Pâques répond quand même à une des questions de l'être humain. Où allons-nous ? Alors, c'est une formidable espérance, parce que ça veut dire que, on a une autre vie. Et ça, c'est important, la vie de l'esprit. Alors, évidemment, on va pas en donner des détails, parce que ça n'est pas possible. Mais je pense à ces jours-ci, à un enterrement, j'étais à côté d'un élu politique, et on a eu quelques petits mots d'échange, et je sais qu'il est chrétien, je lui ai dit, alors, qu'est-ce que t'en penses de tout ça ? C'était une amie qu'on enterrait. Et alors il me dit, oh tu sais, quand on est mort, et pourtant il est chrétien. Mais moi je pense qu'il faut essayer de réaliser aussi que, même si ça n'est pas loufoque de dire que la religion elle existe aussi pour nous faire comprendre beaucoup de choses, et pour guider notre route, et puis pour nous rappeler, eh bien qu'il n'y a pas que les vers qui nous mangent, après le corps, il y a peut-être aussi ce qu'on appelle l'âme, il y a peut-être aussi une autre vie.
C'est plus que la religion, c'est la foi.